Je vais maintenant vous donner quelques nouvelles encore des femmes vivant sous loi musulmane encore, dans le sens que je crois que nous avons la nécessité de vous transmettre chaque fois que nous le pouvons les informations que nous pouvons trouver sur ce qui se passe dans les pays où les femmes vivent sous la dure loi musulmane. Et en l'occurrence ici, j'ai sous les yeux un certain nombre d'articles qui ont été écrits dans le journal algérois El Watan et qui ont été reproduits dans le Nouvel Observateur, qui a fait un spécial Algérie de 40 pages avec ses divers articles extraits de ce journal algérien. Parce que dans ce pays, la vie et la mort de tous ceux qui est dans ce pays, dont tous les drames nous concernent, c'est une chose que nous avons envie de vous parler, dont nous avons envie de vous parler, et particulièrement, bien sûr, la situation des femmes. En l'occurrence, dans ce dossier figurent trois témoignages de femmes qui m'ont paru importants à vous lire, parce que reflétant des situations diverses dont on a déjà parlé, qui sont arrivées à des femmes algériennes, mais qui, de par la force du témoignage qu'elles transmettent dans ces articles, nous donne encore plus concrètement ce qui se passe chaque jour. Parce qu'il se trouve encore qu'il y a des gens qui ne croient pas à ce qui se passe en Algérie, qui pensent que c'est exagéré. Il y a même, semble-t-il, des gens qui, en Algérie, disent que ce que la presse colporte en Occident, en Europe, est faux, est exagéré. Et parfois, cela fait froid dans le dos quand on imagine que certaines personnes peuvent décider, même aujourd'hui, certaines jeunes femmes, comme j'en connais une, qui a décidé d'aller en Algérie maintenant, en étant persuadée que tout ce qui se raconte sur la situation algérienne est fausse, et donc ne s'apprête pas du tout à prendre un minimum de précautions. Alors, je vous lis pour commencer le portrait d'une femme algérienne qui est très connue, c'est Hassiba Boulmerka, qui est une sportive, en l'occurrence, c'est une athlète de course à pied. Et l'article, son témoignage, raconte un petit peu quand même comme elle est confrontée aux problèmes dans son pays à l'heure actuelle. Elle commence par dire cela. On a voulu me briser parce que nous vivons dans un pays où on tolère de plus en plus mal qu'une femme parvienne au sommet. Et elle a déclaré ceci donc au journaliste Abla Sherif du journal El Watan. Et ceci, alors que championne du monde du 1500 mètres à Tokyo en 1991, championne olympique à Barcelone en 1992, elle avait gagné une pluie de médailles. Ben, dis donc, aujourd'hui, ça va mal, hein, la langue. Pluie de médailles. Et donc, Hassiba Boulmerka est une des figures de l'athlétisme mondial et probablement la sportive la plus emblématique du continent africain. Et s'accorde à dire tous les Algériens, elle est aujourd'hui notre meilleure ambassadrice à l'étranger. Tous ou presque. Car pour Hassiba Boulmerka, dit-elle, celles qui ont le malheur de gravir les échelons de la société sont aussitôt l'objet des attaques les plus viles et des ragots les plus démoniaques. La rançon du succès, diront certains. C'est peut-être le cas, en tout cas en ce qui la concerne. Au moment où elle obtenait le titre de championne du monde du 1500 mètres, un bureaucrate de la Société nationale des constructions mécaniques, la Sonacom, où elle était employée, lui a signifié son licenciement. Devinez pourquoi ? Absence répétée. Évidemment, quand on s'entraîne à un niveau mondial, il faut s'absenter souvent. Il a fallu l'intervention de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Leïla Aslaoui, pour que le prodige de l'athlétisme féminin algérien décroche un poste de conseiller sportif. Il faut avouer que ça correspond mieux à ce qu'elle faisait, à ses activités. Et avec l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Lebib, eh bien, semble-t-il que les relations sont assez au point mort. Je ne l'ai jamais rencontré, dit Hassiba Boulmerka, ni même eu au téléphone. Et depuis son arrivée au ministère, personne n'est jamais venu me demander si j'avais besoin de quelque chose. Mais bon, la championne, semble-t-il, n'a pas un caractère à renoncer. Et n'a-t-elle pas, par exemple, remonté la pente alors que tous la croyaient finie après le malheureux épisode des Jeux méditerranéens où elle avait raté la médaille d'or du 1500 mètres. L'épisode lui a valu une sévère dépression nerveuse avec des grasses conséquences sur le plan physiologique. Par exemple, dit-elle, son taux d'électrolyte a beaucoup chuté, les ongles des deux orteils sont tombés. Lorsque j'ai repris mon entraînement, dit-elle, en vue des championnats du monde de Stuttgart, eh bien, j'ai dû percer mes chaussures pour mettre mes orteils à l'air libre afin d'éviter la surinfection. Et le jour de la compétition, toutes mes concurrentes ont bien vu mes pieds qui saignaient. J'ai pourtant couru, cependant, avec une anesthésie locale aux deux orteils abîmés. Mais pourtant, Hassiba aura tout de même la troisième place. Et dit-elle toujours, cette médaille de bronze a une valeur unique à mes yeux, car c'est une médaille du courage. Je me suis lancé un défi, je l'ai relevé. Peu importait que la victoire soit en or, en argent ou en bronze, il fallait que la planète entière sache que j'étais là et qu'il fallait compter sur moi. Alors, est-ce que le drame qui traverse l'Algérie en ce moment influe-t-il sur son moral et sur sa préparation sportive ? Parce que nous représenter une sorte de vitrine de l'Algérie à l'étranger, répond Hassiba Boulmerka, nous sommes assaillis de questions sur notre pays, tout le temps. Le plus dur, c'est de n'être même pas en mesure de brosser un tableau de la situation en Algérie. Au fond, nous ne savons pas ce qui se passe réellement dans notre pays. Les intégristes qui lui reprochent de courir en short l'ont condamné à mort. Aussi vrai qu'il est possible de se rendre à la mosquée en short, il est impossible de courir en hijab, a-t-elle répliqué. Et bien qu'elle soit régulièrement la cible de fatwas et de prêches religieux, bien qu'elle et sa famille aient été contraints de fuir Constantine, Hassiba Boulmerka parle peu de l'intégrisme. Mais lors d'une manifestation sportive à Bruxelles, elle n'a pas hésité à adresser un bras d'honneur à des militants islamistes qui la huaient en brandissant des drapeaux aux couleurs algériennes barrés d'inscriptions islamistes. Le témoignage suivant a été reçu par Amel Boumediene, dans, toujours du journal El Watan, journal algérois, et il raconte le martyre de Kera, et plus généralement, l'histoire de ces femmes qui sont butins de guerre. Bien sûr, Kera avait entendu parler de ces femmes que les intégristes kidnappent et séquestrent dans les maquis pour assouvir leurs instincts sexuels. Ils appellent ça parfois « mariage de jouissance ». Bien sûr, elle savait aussi, Kera, que plusieurs d'entre elles avaient été mutilées puis décapitées. Mais jamais elle n'avait imaginé le sort qui l'attendait. Dans la cave obscure où des terroristes la séquestrent depuis 2 jours, Kera psalmodie sans cesse des versets du Coran. Le front enfiévré, elle tente de chasser de son esprit les images de Karima, Samia, Nasera, enlevées comme elle par les intégristes, violées depuis, puis atrocement mutilées avant d'être décapitées. Peut-être qu'ils me relâcheront. Des jeunes filles de mon village ont bien été libérées, pense-t-elle. Peut-être. Les 3 hommes qui entrent à ce moment interrompent son délire. L'un d'eux, celui-là même qui l'avait arraché à son domicile familial, s'approche et lui soulève brusquement sa robe. Comme des bêtes sauvages, les intégristes s'abattent sur elle et la prennent un à un, au nom de Dieu. Kera a longtemps hésité avant de nous livrer son témoignage, dit-elle. Ces 3 jours de cauchemar dans les maquis des intégristes remontent aujourd'hui à plusieurs semaines. Elle éprouve toujours la même souffrance à évoquer le drame qui a marqué son corps au fer rouge. Bien sûr, elle avait entendu parler de ces femmes que les intégristes kidnappent et séquestrent pendant des mois durant dans les camps pour que les prétendus combattants de Dieu puissent assouvir leurs instincts sexuels. Bien sûr, elle savait que plusieurs d'entre elles avaient été par la suite atrocement mutilées puis décapitées. Mais jamais, non jamais, cette jeune fille à l'allure si timide, qui s'était empressée de revêtir le voile islamique dès que le parti intégriste a fait son apparition, n'avait imaginé le sort qui l'attendait. Après avoir annulé plusieurs rendez-vous, Kera a accepté de recevoir les journalistes dans l'appartement où elle passe ses journées, en compagnie d'autres jeunes filles qui, comme elle, ont décidé de fuir les zones de l'intérieur où les ennemis de Dieu, les ennemis de l'humanité, leur ont fait endurer les pires atrocités. Kera confie ses amis a été pratiquement livrée par son propre père aux intégristes. Mais pouvait-il faire autrement ? S'interroge Kera. Ils étaient armés. Elle hésite un instant, puis reprend. Je lui en veux quand même un peu, il aurait pu au moins faire semblant de s'opposer. Visage pâle, très tiré, les cheveux enfouis dans son foulard, Kera raconte d'une voix éteinte ses 3 jours en enfer. Elle refuse tout de même de révéler le nom de son village. J'ai peur que ma famille, ma mère et mes sœurs, surtout, ne subissent des représailles. Il était environ 19h quand un groupe d'hommes armés encercle la modeste demeure familiale. Mon père venait de rentrer, raconte Kera. C'était comme à l'accoutumée et il s'était, comme à l'accoutumée, retiré dans sa chambre pour se reposer. Ma mère, mes sœurs et moi-même étions assises face à la télévision. 2 des terroristes frappent lourdement à la porte. « Ouvrez, au nom de Dieu, ouvrez, ou nous allons défoncer la porte et faire un massacre !» Malgré les supplications de son épouse et de ses filles, le père ouvre. Les 3 hommes au visage recouvert d'un turban noir s'engouffrent dans la maison. 2 autres à l'extérieur montrent la garde, armée de Kalachnikov. Un terroriste prend alors le père de Kera et s'enferme avec lui dans une chambre. Mais les échos de la conversation parviennent aux oreilles des femmes. On entendait l'homme crier. Pendant 20 minutes, il a tenté de persuader mon père de me laisser aller avec eux dans la montagne pour, disait-il, les soutenir et leur préparer à manger. Cloué par la peur, le père articule des mots incompréhensibles. Le terroriste le jette alors à terre, pointe son arme sur lui et vocifère. « C'est un ordre de l'émir !» Malgré les cris de sa mère et de ses sœurs, Kera est emmenée. Le supplice commence. Ils m'ont jeté dans une fourgonnette sans vitre et ont roulé des heures durant. Nous sommes arrivés de nuit dans un endroit que je ne saurais décrire. Tout ce que je savais, c'est que nous étions dans une forêt. Ils m'ont ensuite traîné dans une sorte de cave où se trouvait déjà une vieille femme. Les yeux hagards, les tempes battantes, Kera observe celle qui lui fait face. Aucun mot ne sort, aucune larme. Elle est figée par l'angoisse et l'incertitude. Quelques heures plus tard, 3 hommes sont venus me trouver. Ils m'ont allongé à même le sol et m'ont violé un à un. La femme qui se trouvait près de moi pleurait doucement. L'un d'eux l'a frappée, puis ils sont repartis. Kera interrompt ici son récit. Le souvenir est encore trop frais. Elle éclate en sanglots, nous reproche de lui avoir fait revivre ces moments, se lève dignement et sort en refermant la porte d'un geste brusque. Nous apprenons par ses amis que durant sa séquestration, Kera était soumise à un rythme de travail intense pendant toute la journée et que lorsque le soir venait, elle était obligée de fermer les yeux quand les intégristes la prenaient collectivement, au nom de Dieu. Au bout de 72 heures, elle est miraculeusement relâchée et ramenée dans sa famille. Son corps est couvert d'ecchymoses, ses jambes ne répondent plus, elle s'écroule. Son père l'a accueillie avec une indifférence totale, raconte une de ses amies. Pour lui, Kera n'était plus sa fille, mais celle par qui la honte était arrivée. Il ne s'est même pas opposé lorsqu'elle a émis le vœu d'aller vivre chez sa tante à Alger. Il lui a seulement demandé de ne pas porter plainte. « Je n'ai pas envie qu'il vienne me tuer », lui a-t-il dit. Souillée dans son corps, Kera souffre de la honte et de la passivité des autres, de ceux qui non seulement n'ont rien fait pour l'aider, mais tentent au contraire de la rendre coupable de son sort. « Coupable, comme on veut me le faire croire à moi aussi », dit une autre victime. « J'habitais la même région que Kera. J'ai été violée par les intégristes sous les yeux de ma famille. Quelquefois, je me dis que j'ai quand même eu de la chance de m'en sortir vivante, car on ne sait jamais ce que ces fous peuvent commettre. » Combien de femmes ont été décapitées après avoir été violées? Selon de récentes statistiques publiées par les services de sécurité, 215 femmes ont été assassinées au cours des 2 dernières années. Le nombre de viols et d'enlèvements est impossible à établir. Les tabous font que de nombreux cas ne sont pas signalés. Dans les milieux ruraux, nous disent les jeunes filles qui ont fui les régions les plus troublées, le phénomène a atteint des proportions dramatiques. Pourquoi et à quel moment les intégristes sont-ils reçus l'ordre de s'en prendre aux femmes alors que la religion, même si elle est discriminatoire à leur égard, leur confère un caractère sacré? Il semble que tout commence en juin 1991, lorsque Ali Ben Hadj, numéro 2 du Front islamique du Salut, le FIS, dissous, prononce une fatwa appelant à l'insurrection. Fatwa réactualisée puisqu'elle avait déjà été prononcée par Ibn Tamia, un théologien du 9e siècle, qui fit une lecture des plus obscurantistes du Coran et dont se prévalent aujourd'hui tous les radicaux islamistes du monde arabe. Alors ce décret religieux autorisait les insurgés à s'emparer des biens de tout citoyen qui se mettait en travers de leur chemin, butin de guerre selon eux, et à l'assassiner. Et pour les théologiens, cette fatwa n'était qu'une déviation de la religion, l'islam n'ayant jamais rendu licite ce genre de pratique. En Algérie, après la déclaration de guerre ouverte contre le pouvoir impie, les intégristes sont entrés dans la clandestinité et plusieurs chefs de groupes terroristes ont alors décidé de reprendre la fatwa en question et d'y ajouter un passage relatif aux femmes. Pour eux, ces dernières devaient désormais être considérées comme faisant partie du butin de guerre dont peuvent se saisir les intégristes. Les premiers cas de viol sont enregistrés depuis quelque temps plus tard, dans la ville de Mahalma, à quelques 150 km d'Alger. L'une des premières à subir ce sort a été l'épouse d'un imam prêcheur. On en a parlé en plus dans la presse à ce moment-là. Akila, tel est son nom, a été violée collectivement par un groupe d'islamistes que son époux avait hébergé. Les spécialistes ont attiré l'attention sur le caractère collectif du viol, qui selon eux démontre qu'il ne s'agit rien d'autre que d'un comportement criminel. Ce qui prouve que l'ex-fils n'a fait que récupérer d'anciens délinquants qui prétendent aujourd'hui combattre au nom de Dieu. Peu de temps après le viol d'Akila, l'épouse de l'imam, trois nouveaux cas sont enregistrés dans une autre ville, puis trois autres dans la ville d'Oran, deux autres encore dans d'autres villes et deux autres. Les viols se sont mis à se multiplier à une allure vertigineuse et le phénomène qui, croyait-on, se limitait aux zones rurales faisait bientôt son apparition dans les milieux urbains. Dans des villes tout proches de la capitale ou à 200 km de là, les intégristes n'ont pas hésité à violer une petite fille de 9 ans avant de l'assommer avec un manche de hache, puis d'assassiner le reste de sa famille. La gamine, elle, a survécu, mais disent les médecins, on ne sait pas si elle pourra mener une vie normale. Le cas le plus atroce est sans doute celui de cette jeune fille de 16 ans. Issue d'une famille très pauvre, elle avait dû quitter tôt l'école pour aider ses parents à travailler la terre. Pour éviter les regards indiscrets des autres villageois, elle avait choisi de revêtir le voile islamique. Un matin, comme elle sortait de chez elle, trois individus l'accostent et lui demandent de les suivre. Elle refuse. Les deux hommes l'empoignent et la jettent dans une voiture. La malheureuse est emmenée dans un maquis où elle restera 2 mois prisonnière. 2 mois durant lesquels elle a subi plusieurs vols collectifs. Un jour, l'un de ses bourreaux s'approche d'elle et l'allonge à terre. En tâtant son corps, il s'aperçoit qu'elle a le ventre gonflé. Il lui délie alors les poignets et la relâche. Elle sera retrouvée, quelque temps plus tard, par les services de sécurité, à demi-folle. Elle errait seule sur une piste déserte. Elle ignorait encore qu'elle portait un enfant. Et pour terminer, ces nouvelles des femmes algériennes tirées du journal El Watan d'Alger, un article écrit par Mouni Balta et qui donne plutôt le témoignage de 4 jeunes femmes qui n'ont en commun que leurs 20 ans, qu'elles portent chacune à leur manière. C'est Lamia, Linda, Samia et Nejma qui sont étudiantes, qui ont chacune leur destinée, chacune leur Algérie, qui vivent chacune leur Algérie. Et qui ont chacune un même refus de céder au chantage des intégristes. Alors, Lamia est étudiante à l'université de Bab el-Zouar et elle veut être ingénieure en informatique. Vive, intelligente, un sourire éclatant, elle donne toujours l'impression de courir après la vie. Samia, elle, prépare une licence en droit à l'université de Ben Hakoum. Effacée d'une timidité plutôt maladive, elle parle d'une petite voix à peine audible et rougit quand on lui demande de répéter. Rien ne semble intéresser que ses études, dont elle parle avec passion. Nejma, étudiante en médecine, vit la crise algérienne, la rage au cœur et la peur au ventre. Son père, dentiste, est parti en France depuis 6 mois. Il cherche du travail pour pouvoir faire venir sa famille. Sa mère ne vit que dans l'attente de ce coup de téléphone. Et Nejma est déchirée entre l'envie de rejoindre son père et le désir de vivre chez elle parmi les siens. Linda, la quatrième, est la sagesse même. Étudiante à Babezoire, elle prépare un DES en chimie. Elle consacre tout son temps aux études pour lesquelles elle est prête à tous les sacrifices, sauf un. Je refuse de porter le hijab pour aller à l'université. Je ne veux pas céder au chantage. Réunies toutes les quatre autour d'une table dans un restaurant d'Alger pour rencontrer la journaliste Mouni Balta, Lamia, Linda, Samia et Nejma racontent leurs 20 ans et en oublient de manger. Lamia avoue ne rien comprendre à ce qui se passe en Algérie. « Je suis jeune, j'ai envie de vivre. Maintenant et pleinement, je n'ai pas envie de m'occuper de politique », confie-t-elle, un peu comme pour excuser son ignorance. Pourtant, habitant dans un quartier populaire d'Alger, elle a souvent été témoin des affrontements entre forces de l'ordre et islamistes. Un policier a été assassiné près de chez moi, j'ai dû enjamber son cadavre pour rentrer à la maison. En fait, j'ai commencé à prendre vraiment conscience du drame que nous vivons le jour où le recteur de l'université de Babezoire a été sauvagement assassiné. Pour Nejma, la peur est née le jour où ses parents ont décidé de quitter l'Algérie. Ils étaient devenus paranoïaques, ils voyaient la mort partout, cela a fini par me contaminer. Le père de Nejma avait un cabinet dentaire à une vingtaine de kilomètres d'Alger. Il y a moins d'un an, un jeune qui s'était fait passer pour un patient lui demande une forte somme d'argent en le menaçant de mort. Il avait une semaine pour s'exécuter. « Sinon, lui dit le racketteur, ta famille payera. » Depuis ce jour, Nejma et ses parents n'ont plus remis les pieds dans leur maison. Mon père était persuadé que notre vie était en danger et comme il n'avait aucune intention de payer, il a fermé son cabinet et est parti pour la France. Depuis 6 mois, Nejma et sa mère vivent chez des proches. Notre famille et nos amis sont très hospitaliers, ils font tout leur possible pour nous mettre à l'aise. Mais ma vie est complètement perturbée, mes études aussi d'ailleurs. Il y a des jours où, quand je me réveille, je passe 3 bonnes minutes à me demander où je suis. Pourtant, Nejma a persuadé que les choses vont bientôt s'arranger. Samia, elle, reconnaît n'avoir jamais vécu avec la peur. Ma famille est très aisée, mon père est un homme d'affaires. Nous vivons dans un quartier tranquille où il ne se passe jamais rien. C'est vrai, quand je regarde les informations à la télévision, j'ai peur. Tout ce qui se passe en Algérie m'inquiète. Mais en même temps, je me dis que je suis à l'abri, que rien ne peut m'arriver. Tu es égoïste, que tu ne penses qu'à ton petit confort et tu ne penses pas à l'avenir de notre pays et à tous ces morts que nous enterrons tous les jours, à toutes ces écoles et ces usines que des criminels ont incendiées, lui lance Lamia furieuse. Pour elle, d'une manière ou d'une autre, tous les Algériens sont concernés par cette crise. J'ai compris que moi aussi j'étais menacée et que je n'étais pas à l'abri de la barbarie de ces terroristes qui n'épargnent plus personne. J'ai surtout compris que je pouvais aussi mourir parce que femme, parce qu'étudiante, parce que pas voilée, parce que pas comme eux. Lamia se souvient de toutes les menaces colportées, de bouche à oreille, rapportées par les journaux, affichées contre les murs de certaines mosquées ou universités, envers les étudiantes qui ne portaient pas le hijab. J'ai failli céder, avoue-t-elle. S'il me fallait choisir entre arrêter mes études et porter le hijab, je n'hésiterais pas une seule seconde, bien que l'idée d'avoir un foulard sur la tête m'horripile. Linda ajoute « Moi, je n'ai pas l'intention d'abdiquer, quitte à mourir. Je veux vivre dans mon pays libre. » Lamia « C'est mon vœu le plus cher aussi, seulement il y a mes parents. Ils sont d'accord pour que je fasse des études à condition que je sois en sécurité. » Après l'assassinat du recteur de Babelsoir, ils m'ont demandé de choisir entre quitter l'université et porter le foulard. Finalement, je n'ai pas eu à choisir. Depuis quelques mois, mes parents ne m'en parlent plus. Ils se sont calmés. Jusqu'à quand ? Linda renchérit, jusqu'à ce que la violence cesse. En attendant, tu n'as qu'à partir quelque part. Lamia lui répond, aller en France ou dans un autre pays européen ? J'aime mon pays, je ne veux pas vivre ailleurs. D'ailleurs, mes parents ne le voudront jamais, ils n'en ont pas les moyens, ni de me payer des études à l'étranger. Et toi, tu partirais ? Linda, non, moi non plus je n'ai pas envie de partir, j'ai ma famille ici, mes amis, chaque quartier me rappelle un bon moment passé, je n'ai pas envie de quitter tout cela. Samia, sortant enfin de sa réserve, je n'ai pas le droit de laisser mon pays à des criminels, si nous partons tous, que restera-t-il ? La plupart des universités d'Alger ont été désertées par les professeurs qui se sont exilés. Si nous, étudiants, nous devions ne plus aller à l'université, cela voudrait dire que nous baissons les bras. Il nous faut résister, relever le défi. Nous avons 20 ans. Nous sommes plusieurs millions à avoir 20 ans aujourd'hui en Algérie, dira Linda en guise de conclusion, approuvée par les 3 autres. Nous voulons vivre heureux et ce bonheur nous est confisqué à cause de conflits dont nous ne sommes pas responsables. Pourquoi faut-il que nous payions des erreurs qui ont été commises par d'autres avant même que nous naissions ? J'aime la vie, j'ai envie de m'amuser, de m'éclater, de m'épanouir. Je suis fatiguée de pleurer mon pays que je ne reconnais plus. C'était des témoignages tirés du journal El Watan concernant les femmes algériennes. Et la voix magnifique que vous venez d'entendre, c'est celle de Aïcha, une chanteuse des Aurès. Et puis, je vous avais annoncé que je vous parlerais des femmes de l'Ouzbékistan. Eh bien, nous n'en avons malheureusement pas le temps. Ce sera le programme de notre prochaine émission la semaine prochaine. Donc, comparaison entre une rencontre avec une femme ouzbékistane il y a quelques années, en 1990, au Festival du film de femmes de Créteil. Elle présentait deux films, un qui avait pour titre Le Voile et qui racontait comment les femmes, juste après la Révolution russe, jetaient leur voile au feu pour manifester leur indépendance. Et puis comment, quelques années plus tard, 1990, des femmes s'immolaient par le feu tellement elles ne supportaient plus la condition qui leur était faite. Et finalement, 1995, le rôle de certaines femmes qui deviennent des prêtresses de l'islam. Voilà, ce sera pour la semaine prochaine dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et c'est dans quelques instants les informels. Mais pour terminer cette émission, eh bien, c'est Tina Turner.